L'invité de la rédaction.
Et si l'ensauvagement n'était pas un péril, mais une occasion, voire une nécessité pour nous resituer en tant qu'espèce, en tant qu'humains convaincus de devoir jouer notre rôle et seulement celui-là au sein d'une arche commune où les hommes et les animaux sauvages coexistent, car c'est ainsi seulement qu'ils pourront survivre. Mon invité aujourd'hui est la philosophe Joëlle Zask. Joëlle Zask qui enseigne au département de philosophie de l'université Aix-Marseille et qui nous présente aujourd'hui son dernier ouvrage « Zoocities, des animaux sauvages dans la ville » paru aux éditions Premier Parallèle. Joëlle Zask, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous par téléphone sur cette antenne de RCJ. Joëlle Zask, qui nous plongez dans cette expérience de la pensée inspirée finalement de l'Arche de Noé. Nous y reviendrons, mais à l'aune d'une observation déjà bien présente. Les animaux sauvages sont en ville, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non, au gré d'une urbanisation dévorant les campagnes, mais aussi de ces manières de vivre qui évoluent de part et d'autre, du côté des hommes, comme de chaque espèce. Après Quand la forêt brûle, justement, publié également chez Premier Parallèle et dont nous avons parlé sur cette antenne il y a quelques mois maintenant. Joëlle Zask, peut-on dire finalement que vous continuez cette exploration philosophique, c'est vrai, mais sensible avant tout, de ce rapport au monde social qui se découvre finalement à l'aune de ce qui surgit, que ce soit justement le méga-feu qui faisait l'objet de cet ouvrage « Quand la forêt brûle » ou aujourd'hui l'animal sauvage, les renards de Londres, les léopards de New York, cette irruption finalement d'un autre dans la ville occidentale comme l'occasion d'un questionnement sur la place des hommes dans leur environnement, sur le sens finalement de cette interaction et de cette mise à l'épreuve de l'extrême et de ce que cela contribue à produire, Joëlle Zask.
Oui, alors voilà une vaste question.
Pour commencer.
Pour commencer, bien sûr. Mais de fait, je m'intéresse à des phénomènes qu'on a sous les yeux et qu'on ne voit pas. Et ces phénomènes, si on ne les voit pas, c'est justement parce que nos représentations des rapports homme-nature ne nous équipent pas des lunettes qui nous permettraient de percevoir des phénomènes tels que ceux que je décris, effectivement le méga-feu et toute la différence qui sépare le méga-feu des feux traditionnels, des feux qui sont relatifs à des entretiens actifs du paysage ou encore des feux naturels, c'est-à-dire des feux qui sont provoqués par la foudre, par temps d'orage sec. Et en fait, cette invisibilité dans laquelle se trouve ou se trouvait le méga-feu, là maintenant ça devient difficile de nier l'existence de ces feux tout à fait hors normes, et un point de départ très fort pour moi parce que justement il a interrogé non pas le phénomène lui-même, je ne suis pas du tout une spécialiste des méga-feux, je ne suis pas pompier et je ne suis pas physicienne ni climatologue, mais ce qui, dans nos représentations, dans nos manières d'agir et de penser, nous empêchait de le voir et de l'identifier, de l'objectiver. Ce qui est frappant, c'est que même, par exemple, je pense que les climatologues, les écologistes, le GIEC n'avaient pas prévu l'ampleur de ces feux et n'avaient pas intégré dans leurs prévisions le rôle que ces feux ont commencé à jouer il y a déjà une quinzaine d'années et vont continuer de jouer dans le dérèglement climatique lui-même. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et avec les animaux, c'est pareil. Je dirais que personnellement, ce qui m'a beaucoup frappé a été l'arrivée d'un essaim d'abeilles domestiques, en fait, même si elles m'ont paru sauvages à l'époque, dans mon très petit jardin qui se trouve en plein centre de Marseille. Et je me suis demandé ce que faisaient ces abeilles là, dans ce jardin, plutôt qu'à 2 kilomètres de là, dans un vaste parc ou dans une forêt de pins ou dans un champ de lavande. Et c'est de là qu'est partie mon interrogation et de fait, elle a été beaucoup relayée finalement par temps de confinement, par les observations de milliards de gens sur la planète. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ces animaux qui nous ont émerveillés, et moi aussi, étaient déjà présents. Ils étaient là, nous ne les voyons pas, nous ne les considérions pas. Nous avions le sentiment de vivre dans une ville sans nature. Alors que les animaux ont commencé d'affluer vers les villes il y a déjà fort longtemps, que certaines espèces sont opportunistes et sont installées depuis des lustres, d'autres commencent à arriver très massivement depuis au moins une vingtaine d'années, et le phénomène s'accélère. Donc voilà, j'ai fait l'hypothèse, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui nous empêche de voir ces choses-là? Alors, c'est plutôt ça ma démarche. Et donc, personnellement, je m'efforce de percevoir tout ce qu'il y a de nouveau et d'émergent, comme vous l'avez dit, dans notre monde environnant et qui nous informe sur nos états de conscience, nos états perceptifs, nos états sensibles et nos états intellectuels, nos traditions. Et voilà, je ne suis pas du tout quelqu'un qui révèle des faits cachés. C'est simplement, moi, mon travail, c'est vraiment, en partant de mes propres expériences, de rechercher ce qui, enfin, celle qui serait vraiment partageable, celle qui serait celle de tout le monde, en fait. Et qui le deviendrait à condition qu'on bouscule un peu nos frontières intellectuelles ou émotionnelles habituelles.
Oui, car c'est vraiment l'expérience que vous nous proposez dans Zoo Cities, Joël Zask, votre dernier ouvrage, ce que vous décrivez là, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous empêche de déconstruire finalement les représentations qui nous empêchent de voir ce qui n'était pas prévu, et donc justement qu'est-ce qui n'était pas prévu, et notamment dans ce livre, dans les représentations principales sur lesquelles vous allez vous atteler, en cherchant justement à non pas à révéler, mais à découvrir les processus qui ont conduit à ces formes finalement aveugles de représentation, c'est par exemple en premier lieu celle de la ville, c'est-à-dire que vous faites ce travail de déconstruction de ce que nous entendons, de ce que nous percevons dans l'idée même de vivre en ville.
Oui, en effet, et je dirais que il faut tout de suite distinguer peut-être les villes telles qu'elles existent et la ville idéale, la ville telle qu'on se la représente et du coup telle qu'aussi nous l'intériorisons. C'est-à-dire que nous vivons en ville et nous ressentons notre vie en ville en fonction de nos représentations. Cette représentation, c'est celle de la ville fortifiée, en fait. C'est la ville fortifiée, c'est-à-dire cette ville qui naît contre la nature, sans elle, parce que la nature, c'est justement l'imprévisible. La nature, ça fait sale, ça fait désordre, c'est ce qu'on n'arrive pas à dominer. Et donc la ville, elle bouscule, disons, elle est la, je dirais presque la quintessence d'un idéal de domination de la nature que j'ai beaucoup analysé depuis mon travail disons plutôt écologique, depuis la démocratie au champ, en fait. Mmh. Et c'est justement cette quintessence parce que c'est un modèle d'habitat humain qu'on peut tout à fait contester et qui pourtant, d'une certaine façon, va sans dire. Or, par exemple, dans la tradition juive, c'est très intéressant parce que l'opposition entre la ville fortifiée et la ville ouverte, elle existe dès la Bible. En fait, la ville fortifiée, c'est Babel. Je trouve que c'est un très bon exemple, parce que Babel, c'est cette ville sous la forme d'une tour, en fait, et d'une forteresse, en fait, elle est réduite finalement au mur, à l'élément mur, et elle quitte la terre pour s'élever vers le ciel et atteindre la place de Dieu et rivaliser avec lui, en quelque sorte, ou s'en passer. Et donc Babel est une catastrophe pour l'humanité, en fait. Bon, elle est détruite, Dieu est là, il fait quelque chose, et puis on remet... finalement, les compteurs à zéro. Mais ceci étant, Jéricho est une ville évidemment très ancienne qui est entourée de murailles épaisses, à certains endroits de 8 mètres. C'est énorme. Et Jérusalem, évidemment, une ville fortifiée, on peut penser à Babylone, mais on peut penser aussi à toutes les villes idéales, ce qu'on appelle la cité idéale, qui est tout sauf une cité. En fait, la cité idéale, c'est la ville portée à l'absolu, c'est-à-dire... cet habitat humain dans lequel il n'y a plus que de l'humain, c'est-à-dire, en fait, ce qui est sous-entendu, il n'y a plus que de la spiritualité, il n'y a plus que de l'âme, il n'y a plus que du psychisme, il n'y a plus de corps, il n'y a plus de bestialité, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de nourriture, au sens non métaphorique du terme. Voilà, il n'y a plus qu'une âme, une spiritualité. C'est pour ça que la cité idéale, elle a été pensée comme le fleuron de la civilisation. C'est le lieu par excellence où l'homme va quitter la terre et s'élever vers les hauteurs de sa spiritualité la plus parfaite. Et donc, voilà, on peut penser bien sûr aux cités idéales, je ne sais pas moi, de Gaudin, on peut penser à Aristophane, même avec les oiseaux, c'est-à-dire cette pièce extraordinaire où finalement les oiseaux construisent une cité dans les airs et dont Aristophane se moquait beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que les oiseaux construisent la cité idéale, c'est sous la forme d'un œuf, donc une forme parfaitement ferrée, enfin une forme parfaitement fermée, si vous voulez, sans aucune porosité, sans aucun contact avec l'extérieur. Et puis une fois qu'ils ont fini de construire la cité idéale, eh bien, ils sont chassés parce qu'ils font des ordres, ils caquettent, ils volettent, et voilà. D'ailleurs, on peut dire que cette image de la ville, qui a évidemment aussi un écho tout à fait réel, Paris, par exemple, a connu 7 murailles successives, hein, 7 remparts ou 7 délimitations, 7 murs successifs, donc c'est énorme. Paris, voilà. Et donc, on imagine, si vous voulez, un centre à l'intérieur duquel, alors après, il faut se pencher sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc, à l'intérieur duquel, et ça, c'est vrai, bien sûr, de la cité d'Aristophane, c'est vrai de la cité de Gaudin, c'est vrai de la cité radieuse de Le Corbusier, qui est peut-être tout sauf radieuse, en tout cas, sur le papier. C'est vrai de la cité de Thomas More. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un ordre dont ils ont formé un ensemble de fonctions, ce que dans le langage urbanistique contemporain, on appellerait le zonage, en fait. Donc, il y a un ordre qui est instauré et dans lequel les individus humains, exclusivement humains, vont venir se loger de manière docile, de manière ordonnée, de manière rationnelle. Et parce que c'est de cette manière, pense-t-on, que finalement, leur spiritualité va s'améliorer et va élever l'ensemble vers, en quelque sorte, les stades suprêmes de la civilisation humaine ou du développement humain. Donc, c'est intéressant parce qu'à l'intérieur, tout est contrôlé.
C'est ça.
Que le rempart sépare, hein, l'habitat humain de la nature, mais tout aussi bien pour contrôler tout ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est intéressant. Est-ce qu'on voit exactement, par exemple, même dans certains jeux vidéo aujourd'hui, comme on fait table rase, hein, on construit la forteresse. Des villes coloniales ont été construites comme ça, notamment en Australie. On fait table rase, on construit une forteresse, et puis après, on quadrille, on géométrise, on rationalise, on classe, on ségrègue, on crée, en quelque sorte, une espèce de ruche, en fait, à l'intérieur desquelles les gens sont un peu des rouages, des maillons de la chaîne, plus que des individualités à part entière.
Mais
cette image de la ville est forte.
Ce qui est d'autant plus fort, c'est que, comme vous le dites, c'est-à-dire la ville, Joël Zask, dans cette aspiration idéale à cette homogénéité, mais qui repose justement sur une fragmentation extrême, c'est-à-dire sur cette perception que l'homogénéité passe par la mise en ordre ultime et effectivement entièrement détachée de sa matérialité. La question, c'est comment cette aspiration à l'unité produit l'exclusion et en l'occurrence, de manière essentielle dans votre ouvrage, l'exclusion du sauvage, c'est-à-dire que la ville est antithétique de la notion de sauvage et de bestialité qui peut y être associée, c'est ça ?
Peut-être pas la bestialité, parce que la bestialité est une catégorie du sauvage. Alors, j'en ai distingué un certain nombre. Enfin, j'ai distingué plusieurs sens de sauvage, enfin, comme tout le monde d'ailleurs, parce que c'est là tout à fait dans le dictionnaire. La bestialité est un aspect. Il y en a un autre qui est très présent, c'est la férocité. Et je crois que la peur des bêtes sauvages, c'est quelque chose qui est logé dans notre cerveau reptilien et que tout le monde vit d'une manière ou d'une autre.
C'est ça, parce qu'en fait, dans cette notion du sauvage, vous montrez qu'en fait, on produit deux types de représentations, la fascination ou la répulsion, la menace, la peur, ou au contraire, justement, ce désir de protection assez anthropomorphique, mais dans tous les cas, qui tend à rendre le sauvage, justement, à contrôler le sauvage.
À le contrôler, à l'exclure. Ça, c'est sûr que la ville... Il y a une chose que je voudrais ajouter, c'est que, si vous voulez, ça nous ramène tout de suite à cette question, c'est que une fois que le centre est vidé, que le rempart est construit, qu'est-ce qui se passe? Ça, on le connaît très bien à Paris et dans la plupart des villes centres, c'est que le reste est rebu d'une certaine façon. Et donc le reste s'étale, et c'est le problème qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a étalement à partir d'un centre. Et comment se passe cet étalement? C'est un fatras. En fait, c'est une accumulation des débris, des rebuts, que ce soit des gens, par exemple ceux qui travaillent, que ce soit et leur logement évidemment, que ce soit des restes de nature, que ce soit l'industrie, que ce soit, en fait, c'est-à-dire tout ce qui n'entre pas dans finalement l'effort de spiritualisation de la vie quotidienne et de la civilisation avec ses ornements les plus magnifiques. Donc, c'est-à-dire en fait, voilà, et je pense que ce schéma, il est très fort, il explique, je pense, beaucoup de problèmes aussi qu'on a aujourd'hui avec ce qu'on appelle les banlieues, l'étalement urbain.
Oui, c'est pour ça que c'est une exclusion.
C'est des processus d'exclusion. Et donc, quand vous dites effectivement que la ville exclut le sauvage, là, j'ai envie de dire, il s'agit vraiment de la part de liberté, de la part d'imprévisibilité, de la part de participation aussi, de contribution, d'autogestion et d'autogouvernement qui est en chacun de nous, en fait. Donc, évidemment, ça exclut la nature, mais ça exclut aussi la part de nature ou de sauvage qui est logée dans n'importe quel enfant qui vient de naître, n'importe quelle personne qui a le loisir de vivre sa vie un peu comme il l'entend, de prendre des initiatives, de les mener à terme, etc., etc. C'est-à-dire aussi d'observer la nature avec des yeux curieux, etc. Donc en fait, je crois que la ville, effectivement, supprime le sauvage qui fait peur, le sauvage qui est lié finalement au monde domestique, c'est celui justement de la bestialité, mais il exclut aussi le sauvage à préserver.
Dans la forme, encore une fois, dont nous produisons les raisons même de cette exclusion, c'est-à-dire vous montrer combien effectivement l'association, l'exacerbation des peurs, l'exacerbation, la figure de l'animal sauvage vous sert en somme à déconstruire aussi la manière dont on se joue, en fait finalement on joue à reproduire cette exclusion pour des motifs qui sont en réalité tout aussi théoriques que le modèle idéal qu'on prétend défendre au travers de ces exclusions. C'est-à-dire l'idéal de l'ordre répond l'imminence du danger de la bête sauvage, c'est-à-dire qui est dont vous dites aussi même médiatiquement, etc. Comment on a construit, on reproduit toujours cette opposition.
Oui.
Nature culture au fond.
C'est toujours nature culture. Alors sous des formes extrêmement variées, bien sûr, au cours du temps et suivant les lieux. Mais ce qui est particulièrement prégnant en ce qui concerne nos manières de faire, c'est d'une part l'exclusion, bien sûr, d'une nature indomptable, qui elle-même est déclinable en deux natures. Il y a la nature féroce, les rayas, les bêtes sauvages, d'une part, et d'autre part, il y a aussi la nature exploitable. Et cette nature exploitable, rationalisable, va servir évidemment de stock de ressources pour ce qui se passe à l'intérieur, parce que, évidemment, cette ville fermée sur elle-même est une ville qui n'a rien d'autosuffisant. Donc le domestique a été pensé, d'ailleurs à tort à mon avis, mais il a été pensé justement comme la rationalisation de production naturelle au profit justement d'une civilisation humaine qui tend à se détacher de sa condition naturelle.
Et là,
on a évidemment les bêtes sauvages, mais aussi tous les animaux domestiques. Par exemple, l'exclusion des abattoirs hors des murailles de la ville, c'est un phénomène qui est très ancien et dont il est déjà question au Moyen-Âge. On n'abat pas les bêtes dans les villes, etc. Donc il y a ce problème-là. Et puis il y a par ailleurs, bien sûr, la nature sanctuarisée, c'est-à-dire cette nature dont on pense qu'elle est primaire, originelle, qu'elle sort des mains de Dieu, et qu'il faudrait la préserver un peu comme un conservatoire. Et ce préservationnisme, d'ailleurs, on va en voir aussi des traces à l'intérieur de la ville sous la forme de parcs clos, de petits sanctuaires localisés. Mais la plupart du temps, évidemment, cette nature sanctuarisée est admirée, émerveillée, dans laquelle on est censé aller se ressourcer, et qui est d'ailleurs totalement détruite aussi bien par l'extractivisme que par le tourisme et les effets pervers de l'émerveillement, si vous voulez, ou de l'attirance, eh bien cette nature, elle est en dehors de la ville. Donc on a tout ça à la fois. Si vous voulez. Mais effectivement, comme vous le disiez, qu'on cherche à dominer la nature, à l'exploiter, à se préserver de ses dangers, ou qu'on cherche à la mettre sous cloche, d'une certaine façon, on fait la même chose. Ces deux extrêmes se renvoient, sont un peu en miroir l'un de l'autre, et d'une certaine façon se complètent et sont complices dans finalement l'œuvre de destruction de la nature dont on est victime aujourd'hui et dont les animaux sont victimes, ce qui explique qu'ils déboulent dans les villes.
C'est ça, puisque c'est là qu'intervient à la fois le surgissement et l'objet même de votre enquête, c'est d'observer qu'en dehors de ces schémas de pensée, finalement, surgit une réalité, à savoir que les animaux sauvages sont là et qu'une adaptation est en cours. Là encore, qu'on le veuille ou qu'on le sache ou non, cette adaptation-là qui consiste pour des espèces sauvages à être dans les villes, à y vivre, à y développer des stratégies aussi de conservation qui leur sont propres. C'est tout l'enjeu de votre livre, non, Joël Zask, dans Zoo Cities, d'observer ce qui est déjà à l'œuvre, à savoir que des animaux sauvages choisissent les villes pour y passer, du moins.
Oui, tout à fait. Alors, il y a beaucoup d'animaux sauvages dans les villes. Il y aurait 1500 espèces à Paris, par exemple. Mais ce que l'hypothèse que j'ai faite, c'est que le nombre d'animaux sauvages allait augmenter considérablement en raison de ce que vous avez dit tout à l'heure, l'étalement urbain d'un côté et le verdissement des villes de l'autre. C'est-à-dire que l'étalement urbain, l'augmentation de la population urbaine, 70% des humains vivront en ville à l'horizon 2050, évidemment est profondément destructeur de la nature. Et cette nature mutilée, chasse, disons, est une nature dont les animaux sont chassés, ce qu'on a très bien compris au moment du coronavirus aussi, d'ailleurs, et de cette pandémie. Et puis, donc à l'inverse, des humains ont passé dans des villes qui étouffent. Alors, je crois que l'épreuve de l'étouffement est vraiment tout à fait significative. C'est quand les urbains étouffent qu'on commence à se préoccuper de la nature, en fait. Ils étouffent à cause des fumées de feu, ils étouffent à cause de la pollution, à cause des développements de maladies maladies allergiques et de choses comme ça. Et donc, pour ne pas étouffer, justement, on verdit les villes. Et donc, ces villes verdies, par exemple, il y a des kangourous du bush australien qui, maintenant, vont brouter l'herbe bien arrosée, bien tendre et bien juteuse des villes, notamment de Canberra, parce qu'ils ne trouvent plus à manger dans le bush. Les sangliers viennent dans nos villes parce qu'ils sont, d'une certaine façon, parce que l'environnement est détruit. Il en va de même de macaques qui s'installent à Bombay, de léopards, dont la réserve a été finalement encerclée d'étalement urbain à New Delhi. Il en va de même des pumas à Los Angeles. Il en va de même des chevreuils ou des cerfs au Japon, etc., etc. Donc en fait, les animaux, la population animale augmente. Et la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Imaginons que cette population augmente considérablement, ce qui est une hypothèse assez raisonnable. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les tue, tous ces animaux? Comme d'ailleurs la loi nous autorise à partir du moment où ils sont classés sur la liste des nuisibles. Ou est-ce qu'on les accueille tous? Ça, c'est pas possible. Je veux dire, tous les tuer, c'est immoral. Et bah, ça pose des tas de problèmes écologiques, notamment ceux de la biodiversité, mais également le développement des maladies. Et de l'autre côté, d'un autre côté, les accueillir, c'est vraiment pas possible parce qu'on peut pas vivre en compagnie des cafards, des rats, des ratons laveurs, des pumas, etc. On ne peut pas les introduire dans notre maison. Et c'est pour ça que, disons, la question que j'ai posée est celle de la coexistence et non celle de la cohabitation. Et j'insiste sur cette distinction qu'on doit faire. C'est-à-dire que des bons sentiments ne peuvent pas nous mener à découvrir les bonnes solutions. Mais la phobie, la haine, le suprémacisme, j'ai envie de dire, humain, ne nous permet pas non plus de trouver les bonnes solutions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la bonne attitude, finalement?
Oui.
Et en même temps, donc, quelle est la bonne distance?
Et c'est là où c'est ce qui est d'autant plus intéressant dans votre ouvrage, c'est que vous nous conduisez encore une fois par le prisme de ce rapport aux animaux sauvages à une réflexion beaucoup plus large sur la question de l'organisation de la cité et finalement ce que nous attendons et la place que nous prenons dans cette cité. Et vous utilisez une inspiration finalement biblique qui est celle d'un homme, hein, Noé, qui n'a pas eu moins de 80 000 animaux à nourrir pendant plus de 320 jours selon leurs besoins. Et cette figure, finalement, vous la citez comme cette inspiration et même qui fait écho à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire pour ne pas étouffer, pour ne pas se noyer, il est un modèle qui est celui, finalement, de l'Arche de Noé.
Voilà. Et je pense qu'il faut que nous fassions de nos villes des Arches de Noé et peut-être de notre habitat en général. Et de fait, l'Arche de Noé, cette arche est déjà en soi une leçon d'éco-design, j'ai envie de dire. Et elle représente une cité, c'est-à-dire que, bon, très clairement, elle est bien délimitée, elle est étanche, elle est protectrice, mais en même temps, à l'intérieur, et ça, il faut se pencher sur l'architecture de l'intérieur de l'arche, c'est très très intéressant, elle est subdivisée en niche, en fait, le terme qui est utilisé en hébreu, c'est celui de niche ou de nid. C'est-à-dire que chaque couple d'espèces, chaque couple d'animaux qui qui montent à bord de l'arche. Et c'est intéressant de noter que les animaux montent d'eux-mêmes dans l'arche et ne sont pas conduits par Noé. Donc chaque couple va trouver son petit habitat, sa petite maisonnette en quelque sorte, sa niche. Et au sens écologique, qu'est-ce que c'est qu'une niche ? Ben, c'est justement un lieu spécifique à une espèce ou à un fonctionnement vital. Par exemple, l'intestin est une niche, mais l'Europe est une niche. Donc, vous avez des niches à tous les niveaux. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que chaque animal a sa niche et que le grand mélange auquel nous invitent les animalistes, d'ailleurs, auquel nous invitent beaucoup d'artistes, cette espèce de logorée concernant le fait qu'il y a de l'animal en l'homme et que tout est dans tout et que nous devons respecter les animaux, leur donner des droits parce qu'ils sont comme nous, ils sentent comme nous, ils raisonnent comme nous, ils parlent comme nous. C'est-à-dire qu'ils ont des facultés communes avec nous. Moi, je personnellement, je n'ai pas besoin de postuler cette identité-là pour répugner à tuer un animal, voire de refuser de le tuer. Donc ça, c'est vraiment, je pense que l'arche est intéressante parce que précisément, son utilité, c'est d'empêcher le mélange. Parce que pourquoi est-ce qu'il pleut ? Pourquoi est-ce que tout est noyé ? Parce que tout s'est mélangé, en fait. Hein.
C'est toutes les figures aussi, du déluge que vous décrivez, mais qui sont extrêmement, des images particulièrement fortes aussi pour comprendre, encore une fois, ce que je vous invite chacun à découvrir dans Zoo Cities, dans votre ouvrage Joël Zask. C'est finalement cette appréhension d'un modèle aussi de compréhension aujourd'hui politique, c'est-à-dire d'enquêter en aval, c'est-à-dire de se dire une cité, c'est finalement ce qui se construit quand on observe ce qui est, ceux et celles qui sont dans cet espace-là à un moment donné, et comment donner à chacun la juste place qui lui revient en plein droit et en pleine égalité. Et est-ce qu'on peut tirer justement ce fil-là pour finir, Joël Zask, encore une fois, que finalement c'est une réflexion qui peut-être observer un renversement qui a d'ailleurs été en germe dans le confinement. Certains s'y sont penchés dans ce sens-là. Observer quand nous pourrions revoir finalement nos attentes, notre place, en se demandant si finalement on ne devrait pas justement renverser les perspectives et accepter cette part d'ensauvagement qui est une manière de se faire une place aussi à soi-même en tant qu'homme dans une ville et dans son avenir possible.
Oui, ben vous l'avez parfaitement exprimé, oui, tout à fait, c'est vraiment l'objectif du livre. C'est-à-dire que ce modèle de la coexistence s'applique au plan politique et éthique à n'importe quel être, finalement, que nous sommes amenés à côtoyer. Et je pense qu'il est très très important d'opter à la fois matériellement et psychologiquement pour des relations de bon voisinage. Les voisins n'étant ni des amis ni des ennemis, mais le fait est que nous ne choisissons pas nos amis, nous ne choisissons pas nos voisins.
C'est vrai que parfois on choisit pas.
Et que voilà qu'il y a à aménager en fait nos conditions d'existence de manière à ce que nous ne souffrions pas de leur présence, mais en même temps que nous leur fassions bon accueil. C'est toujours les deux en fait. C'est pour ça que, par exemple, des solutions d'éco-design, des immeubles qui seraient réservés à la fois à l'habitation humaine et à des nichoirs pour des oiseaux, par exemple des rapaces, la création de tunnels sous les routes. Il y a plein de dispositifs assez simples pour que nous nous acceptions et que nous nous côtoyons sans souffrance et sans état d'âme excessif les uns les autres. Donc la cité, je dirais, pour terminer, la cité, elle est multi-espèce ou multispéciste, comme on dit aujourd'hui, ou alors ce n'est pas une cité, en réalité.
Eh bien, nous vous entendons, Joël Zask, comprendre sans avoir peur de s'y perdre la cité évolutive telle que vous la décrivez dans Zoo Cities, des animaux sauvages dans la ville, publié chez Premier Parallèle, que je vous invite donc à découvrir. Merci infiniment, Joël Zask, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Dans ce 12-13 sur RCJ, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie chacun et chacune de l'avoir suivi jusqu'ici. Je vous retrouve demain à 8h pour un nouveau journal. Très belle journée à tous.
Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio-rcj.info.